Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 1979, les Nuits Magnétiques menaient l'enquête pour savoir ce que pouvait être la lecture dans notre pays, pour entendre par la voix de quelques-uns ce qu'était la relation des Français au livre et à la lecture. Pour le premier volet de cette enquête en deux temps, Antoine Spire et Georges Bonopéra rencontraient les ouvriers de l'usine Renault de Sandouville, une usine dont 10% des 11 000 employés étaient alors inscrits à la bibliothèque du comité d'entreprise. Lisez-vous ? Que lisez-vous ? Comment lisez-vous ? Pourquoi lisez-vous ? Telles étaient les questions qui leur étaient posées. Dans leur fond comme dans leur forme, les réponses que livraient au micro de France Culture ses ouvriers il y a 40 ans battaient en brèche bien des idées reçues, bien des a priori que l'on pouvait avoir sur le monde ouvrier. Nuit magnétique, lecture volée, première partie d'une enquête en deux temps, diffusée la première fois le 28 mai 1979 et réalisée par Mehdi Eladj. Une émission à laquelle participaient Serge Labruni, sous son pseudonyme de romancier Serge Montigny, et Bernard Pivot, qui, avec apostrophe, personnifiait alors la littérature à la télévision et popularisait le concerto pour piano numéro 1 de Rachmaninoff.
Nuit magnétique. Nuit magnétique, lundi 28 mai 1979. Oui, nous annonçons nos programmes. Ce soir, par exemple, nous vous proposons le premier volet d'une enquête sur la lecture en France. La lecture, c'est-à-dire souvent la non-lecture. Qui lit quoi, comment, pourquoi ? Poser cette question sur le terrain, c'est aller au-devant de cinglants démentis. Sur les lectures des travailleurs, par exemple, un grand nombre de nos idées reçues, de nos a priori, sont certainement à revoir. En témoigne le dossier ouvert par Antoine Spire, Georges Bonopéra et Mehdi Eladj. Ils l'ont intitulé « Lecture volée ». Vous savez, on dit parfois « Je vole du temps pour la lecture ». Lire, c'est voler du temps. L'enquête commence ce soir chez Renault, à Sandouville, 11 000 travailleurs. La bibliothèque d'entreprise compte 1100 inscrits. Vous en entendrez certains. Vous entendrez aussi la bibliothécaire, qui parlera de son expérience, un écrivain, Serge Montigny, et un grand responsable de l'incitation et de la dissuasion, notre confrère Bernard Pivot.
Le problème de la lecture, c'est un plaisir solitaire. C'est un plaisir solitaire. Alors, on n'a pas toujours, lorsqu'on est arrêté par quelque chose, la possibilité d'y répondre. Une première question. Je vous lis un passage, là. D'instant en instant, il s'agit de l'entrée dans une école du héros, Michel Renaud. Lorsqu'il était seul, alors, tout s'effritait, devenait un lourd sanglot inexprimé, un glissement irrépressible de la rancune à la tendresse qui pardonne et qui attend. Est-ce que vous pensez que tout être qui est assez extériorisé devant les autres, intérieurement et seul?
Oui, je pense que de toute façon, on est tous toujours tout seul.
solitude du lecteur de fond. Cette solitude, nous sommes allés l'interroger dans une usine, à Renault-Sandouville, au milieu de tous. De l'horizon d'un seul à l'horizon de tous.
La première chose qui frappe ici à Renault-Sandouville, lorsqu'on parle avec les travailleurs, c'est la diversité des individus dans cet univers standardisé. La richesse de ces hommes et de ces femmes, leur capacité de résister à la banalisation de leur personnalité. Derrière l'anonymat de ces silhouettes, se cache une identité qu'il est difficile de découvrir. Cette difficulté, nous l'avons surtout ressentie en montant l'émission. On croyait avoir une approche sociologique du problème de la culture en milieu ouvrier, et finalement, cela ressemblait à de la zoologie. Une démarche peut-être trop militante avait vite escamoté, non pas un regard critique, mais ce que l'on pourrait appeler le troisième œil. Aussi, nous avons tout recommencé. Nous avons tout recommencé en prenant le parti, cette fois-ci, de la distance, en essayant d'éviter toute sacralisation, qu'elle soit celle de la culture, de la lecture, de l'auteur ou du lecteur, et aussi de ce que nous faisions.
De l'horizon d'un seul à l'horizon de tous.
J'ai essayé de m'aventurer dans les livres de Proust. Je suis tombé dans la... Disons que moi, personnellement, Proust ne m'intéresse pas. Trop compliqué. Contrairement à certaines personnes telles que Balzac, des trucs que j'avais vus à l'école, disons que, mais qu'il est très bon de reprendre par la suite. Zola.
Alain Trudel, P1, électricien.
Qu'est-ce que j'ai repris aussi après avoir vu ça à l'école? Hemingway, disons que non, il y a longtemps que j'en ai lu, tu Hemingway. Mais je pense que la meilleure façon de juger un livre, c'est d'en discuter avec plusieurs personnes qui l'ont lu. Entre autres, s'il était possible, après avoir lu un livre, de débattre avec ces personnes-là, ça apporterait beaucoup plus que de l'avoir lu soi-même. Et d'en tirer une conclusion personnelle. Je pense que sur ce plan-là, la lecture est importante, mais par la suite, le débat le serait aussi. Je crois que le fait déjà de lire apporte énormément. Parce qu'on sort de ce cadre bien dicté et tout. Tandis que la littérature, elle, se fixe à un auteur, à un titre et une histoire bien précise, qui en général sortent totalement de l'ordinaire, quoi. Et c'est pour ça aussi que les romans en général, type Slaughter ou des tas d'autres romans, quoi, apportent énormément à l'habituel, quoi. Le point de vue recherché, c'est de laisser un peu tomber la vie d'usine, étant donné que moi, franchement, réellement, si je pouvais m'éviter de travailler à l'usine, je le ferais. En général, disons que c'est un peu le hasard ou les noms d'auteurs que je connaissais déjà un peu. Je crois que c'est un peu surtout le hasard. Bon, bah, évidemment, quelquefois, je tombe sur des livres assez laborieux, mais bon, bah, on en reprend un autre. Déjà, au départ, à l'école, on nous impose un titre bien précis, un auteur bien précis. Bon, le fait déjà d'imposer quelque chose, on prend déjà la chose avec moins de plaisir qu'on pourra déjà l'apprendre aujourd'hui. Mais à l'école, je pense que le fait de l'imposer, on l'apprécie beaucoup moins. Et malgré que quelquefois ça soit très bon, c'est pour ça que par la suite, on a besoin de reprendre ces livres-là. Enfin, je sais que, par exemple, j'avais lu des poèmes aussi, de très vieux poèmes du Moyen-Âge. Il est très important de réétudier ces poèmes-là parce que finalement, on les voit grossièrement, et finalement, après, par la suite, en les étudiant un peu, ils deviennent beaucoup plus intéressants que ce qu'ils sont. Entre autres, « Assis sur un fagot », c'est un très vieux poème, ça, c'est un poème du Moyen-Âge, je crois. « Complain Truteboeuf » aussi, j'avais lu ça. Ces livres de français, de toute façon, je les ai toujours à la maison. Et il m'arrive toujours de les feuilleter, quoi, de reprendre ces livres, entre autres des livres de troisième, qui comportent ces livres-là, ces poèmes-là.
Dans mon enfance, c'était comme ça, il fallait s'échapper pour connaître les choses. C'était pas naturel. C'était pas naturel par la famille, pas tellement par l'école. C'était ce que je savais de moi-même, quoi, en volant du temps, en volant des livres.
Étienne Deck, agent de production. Même,
hein, le peu que je sais, c'est par moi-même. C'est pas par la famille, c'est pas par le. Puis par le travail, bien actuellement, c'est pas au travail qu'on apprend grand-chose. Enfin, qu'on se cultive, disons, qu'on a une vue d'ensemble des, ne serait-ce que des problèmes industriels et tout ça. Hein. On a une. Je crois que le travail est trop cloisonné, trop en miettes. Il y avait un livre là-dessus. Et que chacun est dans son alvéole et n'a pas une vue d'ensemble de l'entreprise ni des problèmes qui s'y posent. C'est absolument la même chose que dans la vie de l'école, telle qu'on l'a vécue, en tout cas à mon époque. Tout était bien cloisonné par matière, etc. Mais jamais de vue d'ensemble, jamais la conscience que nous faisons partie, par exemple, d'une civilisation.
Sortir du cadre imposé, oublier l'école qui cloisonne. Passer de la culture subie à la culture plaisir. Passer du livre imposé au livre choisi.
Je suis chez Renault depuis 7 ans et j'ai comme qualification P2. Alors je viens en effet très souvent à la bibliothèque. J'aime beaucoup lire parce que j'aime être seul et la lecture est évidemment un plaisir de solitaire. J'aime lire de très nombreuses sortes de livres. Je suis attiré par différents pôles successifs. Tantôt ça va être la mer, tantôt ça va être la montagne, tantôt... une autre distraction, mais je lis toujours par pôle successif, ou alors par série d'auteurs. Si vous voulez, je vais lire tout Romain Rolland, je vais lire Balzac, Flaubert, toujours par série, si vous voulez. Hein. J'estime comme ça, on peut beaucoup mieux comprendre un acteur, un écrivain, plutôt que de piocher par-ci, par-là, un livre au hasard de ses découvertes. J'ai relu récemment pour la xème fois Tout Maupassant, et chaque fois... qu'on le relit, mais il faut lire en entier, en groupe. Hein. On apprécie différemment et plus complément toute la qualité de son œuvre. On voit mieux la progression de sa démence et on apprécie beaucoup plus certains ouvrages. Prenez par exemple La peur, chose qu'on lira quand on a 15 ans, bon, et ça vous glissera dessus. Et au fur et à mesure qu'on vieillit, on prend beaucoup mieux conscience de ce qu'il a pu ressentir. Lorsqu'on lit aussi l'extrait où la vieille femme qui retire dans la rivière, par exemple, on se rend bien mieux compte de l'angoisse qu'un homme qui commence à vieillir peut ressentir devant la mort. Et pour ça donc, j'aime surtout lire des livres d'acteurs qui sont morts. Je n'aime pas beaucoup les écrivains passés. Parce que les écrivains actuels, je veux dire, parce que les écrivains actuels, on tombe d'abord sur un français qui est souvent dur à lire, souvent une littérature hachée, brute, des phrases entrecoupées, des mots sans suite, des phrases sans verbe. Ça ne se lit pas bien. Ça ne vaut pas Romain Rolland, si vous voulez. C'est souvent dur à lire. Tandis que dans les écrivains d'autrefois, pour les Flaubert et son gueuloir, au passant, donc, où ça coule tout seul, en plus, d'un roman intéressant à lire, c'est quelque chose de doux à entendre, c'est comme de la musique, si vous voulez. Si vous prenez Albertine Sarrazin, eh bien, c'est pas très beau, hein, c'est pas très beau à lire. Ça se lit, mais si vous voulez, on ne pourrait pas le lire haute voix, parce que c'est choqué, c'est heurté, c'est assez vilain.
Roger Yves, électricien P2, a du mal à lire la littérature contemporaine. Pour lui, elle est hachée, elle est hachurée. Il ne peut pas ne pas la mettre en parallèle avec la littérature classique, celle qu'il lit de la première page à la dernière page, celle qu'il lit dans la totalité, celle qui lui permet une continuité que dans sa vie il ne trouve pas toujours.
Mais si vous voulez, cette peur d'angoisse, on la ressent à chaque instant, devant le peu d'intérêt de notre travail, devant notre condition presque dire misérable, en fin de compte. Nous ne sommes qu'un pion sur l'échiquier. Et tout ce qu'on ressent, on ne peut pas vraiment le dire. Des gens comme Maupassant ont très bien su le dire avant nous. Et ils l'ont exprimé bien, mieux même qu'on ne le pense nous-mêmes.
Ça ne prévient pas, ça arrive, ça vient de loin, ça s'est traîné de rive en rive, la gueule en coin. Et puis un matin au réveil, c'est presque rien, mais c'est là, ça vous ensommeille au creux des reins. Le mal de vivre, le mal de vivre, qu'il faut bien vivre, vaille que vivre. On peut le mettre en bandoulière ou comme un bijou à la main, comme une fleur en boutonnière ou juste à la pointe du sein. C'est pas forcément la misère, c'est pas Valmy, c'est pas Verdun, c'est les larmes aux paupières, au jour qui meurt, au jour qui vient. Ce mal de vivre, ce mal de vivre, qu'il nous faut vivre, vaille que vivre, qu'on soit de Rome ou d'Amérique, qu'on soit de Londres ou de Pékin, qu'on soit d'Égypte ou bien d'Afrique, ou de la porte Saint-Martin. On fait tous la même prière, on fait tous le même chemin, qu'il est long lorsqu'il faut le faire, avec son mal au creux des reins. Ils ont beau vouloir nous comprendre, ceux qui nous viennent les mains nues, nous ne voulons plus les entendre, on ne peut pas, on n'en peut plus. Et tout seul dans le silence d'une nuit qui n'en finit plus, voilà que soudain on y pense à ceux qui n'en sont pas revenus. Du mal de vivre, leur mal de vivre.
J'ai lu quand j'étais gosse un livre qui s'appelait L'âne culotte, c'est de Bosco, je crois. Hein. C'est ça, oui. Et j'avais lu aussi Abdi l'homme à la main coupée, c'est de... Enfin, c'est un écrivain qui n'a pas tellement beaucoup d'importance. Et bien, je les ai relus il y a peu de temps, ces livres-là. Et bien, si vous voulez, ce sont des choses que j'ai lues étant gamin, comme le film qu'on a vu hier soir à la télévision, comme un simple roman d'aventure, hein. Et bien, en les relisant 20 ans après, on retrouve quelque chose de totalement différent. Dans L'âne culotte, eh bien, on voit toute la poésie de la Provence. C'est très joli à lire. En plus d'un roman, c'est quelque chose de très beau à lire. J'aime aussi lire beaucoup, ce sont des biographies. Et des biographies, si vous voulez, assez récentes, hein, écrites par l'écrivain lui-même. Pas, si vous voulez, la vie de Napoléon par... Les écrivains qui font fortune à la télévision, parce que, fin de compte, ils n'y étaient pas. Hein. Mais un peu, tous les livres qui sont sortis récemment, comme L'Albine, par exemple, où ces paysans, ces Auvergnats, tous ces gens-là, ont raconté leur vie telle qu'ils l'ont vécue il y a 50, et même presque 100 ans. On sent de quoi ils parlent, on sent qu'ils parlent avec leur cœur, ils ont vécu, et c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, tandis que, vous savez, la vie de même de personnes historiques, que sont lancés en fin de compte. Hein. Lorsque la Bible a été écrite 70 ans après la mort de Jésus, puis on n'est pas complètement d'accord sur ce qu'il y a dedans. Hein. C'est tout.
Pour moi, la lecture, c'est un tout, c'est un besoin comme de manger, de dormir. Et même des fois, je lis à la place de dormir. Mais le.
Micheline Nègre, OS.
En plus, il y a le manque de temps. Le manque de temps qui est très important pour les gens qui travaillent ici. Et on n'a pas le temps de lire. C'est pas possible.
À votre avis, pourquoi est-ce que vous, à la différence d'autres, si je comprends bien, puisque c'est pas le cas de tout le monde, loin de là, pourquoi est-ce que vous consacrez tant de temps et d'intérêt à la lecture et vous considérez que c'est un besoin comme de lire, comme de manger ou de dormir?
Je ne sais pas, c'est venu tout seul, ça. Je ne peux pas me passer de lire. Moi, je ne peux pas dire, j'ai une origine, c'est d'origine. J'ai toujours vu lire chez moi, enfin, chez mes parents, on lisait beaucoup. J'ai toujours passé la lecture avant un tas de choses. Faire la vaisselle, pour moi, c'est pas important. De lire mon bouquin, c'est beaucoup plus important. Bon, alors, je suis peut-être pas comme tout le monde. Il y a aussi surtout pour les femmes, les choses bien ancrées, la femme se doit à son mari, à son ménage, à ses enfants, et le plaisir, c'est tout à fait à part, et on se vole, quand on lit, on a l'air de voler son temps aux autres, alors que bon, bah, pour moi, j'ai pas été élevée comme ça, et bon, bah, il faut dire le terme, je m'en fous, là, du reste, je m'en fous. Pas mes enfants, mes autres, mais enfin, si on mange aux casseroles, on mangera aux casseroles. Moi, j'aurais lu mon bouquin. Les Flamboyants, je l'ai pris pour le critiquer dès le départ, parce que je ne me rappelle d'ailleurs pas qui l'a écrit. Mais il me déplaisait, j'avais vu des interviews de lui, c'était le prétentieux de première. Pour moi, c'était un prétentieux, et j'ai pris son bouquin pour le démolir, en fin de compte. Les premières pages ont été très très difficiles à lire. Il a... Ça flamboie d'adverbes là-dedans, il en invente, il en remet. Et j'ai été prise dans mon propre piège. J'ai lu Les Flamboyants avec un intérêt croissant et j'ai trouvé formidable son bouquin. Et je l'ai vu l'autre jour sur les planches et je vais le reprendre d'ici quelques temps parce que je voudrais relire Les Flamboyants, plus posément.
Et quel genre de livre aimez-vous lire ?
La mer, tout ce qui est instructif, beaucoup d'histoires vécues, mais jamais de romans ni de choses comme ça.
Vous lisez pour apprendre, pas pour le plaisir ?
Beaucoup pour apprendre et aussi pour le plaisir, mais pour le plaisir quand vraiment je veux changer, j'en ai trop plein la tête, alors là je prends quelque chose qui est complètement pas en dehors de mon sujet, mais enfin pour me distraire, oui.
Et vous lisez plus depuis qu'il y a une bibliothèque d'entreprise ?
Bah disons que je trouve des livres que je n'ai pas besoin d'acheter, quoi. Et ceux que je veux garder, soit des souvenirs ou des notices techniques que je veux vraiment garder pour moi, à ce moment-là, je les achète ou encore je relève sur un cahier des choses que je retrouve dans ces livres ici. On peut faire ce qu'on veut quand on veut le faire.
Merci.
En dehors de l'évasion, disons qu'on peut parler de documentaire, entre autres sur il y a très peu de temps. Enfin, ce document-là, ce livre-là, j'ai pas eu ici, mais c'était assez vieux. Je crois que c'est Vous n'allez pas avaler ça. C'est d'une journaliste qui a écrit ça sur J'ai lu, et j'ai trouvé ça assez valable sur le plan de la pollution, de la vie actuelle, au niveau des disons l'écologie en général. Il y avait aussi très peu de temps, j'ai retrouvé un livre aussi qui est de Marcel Diéné. C'est un documentaire sur les prisons, la prison de Fresnes. C'est intéressant aussi. C'est Le Petit Paradis, ça s'appelle. Les bandes dessinées, disons aussi, ça c'est un autre mode de lecture. C'est la lecture décontractée, quoi.
Voici le genre de livre que je n'aime pas, Les Sources d'énergie. Bon, on fait un bilan des énergies actuelles, bon, le soleil, tout ça, l'énergie nucléaire, l'énergie atomique, le pétrole, et on voit des choses. Après, on marche dans le futur, hein, dans le conditionnel. Une telle compensation permettrait, toujours du conditionnel, hein. Les réserves suffiront, peut-être, on ne sait pas. Le gars qui écrit ça, M. Albert, c'est un Allemand d'ailleurs, ne sait pas de quoi il parle. Il y a 10 ans, on disait, le pétrole, il n'y en a plus. J'ai discuté peu de temps avec un ingénieur qui a dit, mon pauvre ami, du pétrole, vous serez mort, qu'il y en aura encore. Alors, tous ces gens-là, ils discutent dans le vide. Hein.
Mais lorsque vous voulez, c'est des certitudes avec les documents ?
Des certitudes, oui, exactement. Je n'aime pas des dirais-je, peser le pour et le... J'aime bien peser le pour et le contre, mais j'aime pas qu'on dise, il se peut que, il se pourrait, il est probable que, ça ne veut rien dire, ça. Hein.
Je pense surtout au roman, en fait. Bon, pourquoi ? Alors là, c'est plus... peut-être un peu plus compliqué à déterminer. J'ai pris certains bouquins d'économie politique, mais ça me barbe. Et certains... des bouquins historiques qui sont très très bien, mais qui sont sous forme plus souvent de romans que le bouquin très, très dur, très, très ardu. Maintenant, je suis quand même assez passionné d'histoire et tout ce qui se rapporte aux événements historiques, romancés ou pas, sont les bienvenus, disons. Bon, je n'ai pas, comme mes prédécesseurs, disons, un une donnée propre de dire je vais prendre toute la mer, toute la... Non, mais je fais comme le camarade tout à l'heure, je prends souvent des auteurs par série, du fait que je prends un auteur, je le lis, je commence de A jusqu'à Z. Il n'y a pas longtemps que j'ai relu Zola, en même temps que ma fille d'ailleurs. Bon, non, c'est tout. Parce que je vois pas, un peu... Moi, je n'ai pas préparé ce... aujourd'hui, hein, je suis là. On en avait discuté tout au début de la... que vous nous avez fait la proposition, et ça a été terminé, j'ai été arrêté 8 jours là, et j'ai pas revu personne, je suis arrivé que ce matin. Alors, disons que j'ai pas préparé, ni quoi que ce soit.
Pluralité d'entrées en lecture. Évasion. Documentaire, comprendre, acquérir des certitudes, relever sur un cahier, noter une phrase, et puis surtout le plaisir de lire, la passion de Micheline. Mais il y a aussi ceux qui ne lisent pas.
Mais je suis étonnée, moi je voudrais dire une chose, parce que les interviews qui ont précédé, là, on risque de penser, quand ça va passer aux antennes, de croire que tout le monde à Sandouville lit de la même façon. Alors ça, c'est pas vrai. Il y a je ne sais combien de qui fréquentent la bibliothèque, d'adhérents à la bibliothèque, et il y a près de 11 000 travailleurs à la régie. Et quand on voit la différence entre les 11 000 travailleurs et la fréquentation de la bibliothèque, c'est énorme. Alors on est un peu triés sur le volet, on est les bons clients de la bibliothèque, on se tient au courant, on est connus, et c'est un peu la raison pour laquelle on est là.
Ouais, ma femme, elle a lu Papillon. Puis c'est pour elle. Moi, je prends jamais le livre si j'aime pas. Je préfère les 10. Puis je travaille chez Renault, ça fait 6 ans.
Comme quoi ?
Comme OS. En sellerie. C'est tout.
Je fais 2 ans que je suis ici. Question de la bibliothèque, bon, bah, c'est pas mal, mais question de livres, j'en prends jamais ici. Enfin, c'est pour, ça m'intéresse pas, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de venir voir. Tant faut que j'arrive à moi. Comme là, bon, bah, je viens en voiture, puis je reste souvent jusqu'à 2 heures dans la voiture, mais là, pour une fois, je suis sorti avant, pour voir un peu ce qui se passait ici. Sinon, je viens jamais là. C'est tout.
Vous allez souvent à la bibliothèque ?
Ici ?
Oui.
Une fois dans le temps, oui, comme tout le monde.
Et qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est très bien.
Qu'est-ce que vous choisissez dans la bibliothèque comme genre de livre ?
Bon, tout. Tout ce qui me tombe sur la main et tout ce qui m'intéresse.
Qu'est-ce que vous avez lu récemment ?
Bah, pour l'instant, je suis en repos là. Pour l'instant, je ne le lis pas.
Pourquoi, à votre avis, vous ne lisez pas ?
Parce que je suis un peu fatigué. Et vous savez, quand vous avez fait 8 heures dans une usine, bah, à la fin, vous en avez marre. Ça, je vous le dis franchement.
Ils ne lisent pas. C'est la fatigue, le travail, l'absence de temps. Et c'est tout. Ce c'est tout qui termine tant d'interventions. Ce c'est tout simple, mais profondément évocateur. Et puis aussi, la recherche de la béquille. La recherche de la béquille pour lire. Pour l'un, c'est par exemple sa femme. Alain.
Oui, mais je suis aidé par ma femme, hein, c'est ça. La littérature, disons que ma femme a déjà un pied un peu dans la littérature, étant donné qu'elle est en faculté de lettres, et puis ça m'aide un peu, si vous voulez, à lire, quoi. À partir du moment qu'on a un pied là-dedans, je crois que ça aide beaucoup. Parce que je crois que sur ce plan-là, la littérature, on laisse un peu tomber. Je crois plutôt qu'en ce moment, c'est la musique plutôt que le livre. Les disques en général. Disons que je suis un peu favorisé par rapport aux autres sur ce plan-là.
La lecture me permet de ne pas perdre de temps. La première chose qui me fait lire, c'est de ne pas perdre de temps, par exemple dans le bus. Et puis, lorsque les soirées ne nous apportent pas des loisirs intéressants.
je vous dis qu'on a toujours le temps de lire. Dans le Caire, nous avons en moyenne tous 1h30 de route. Et pendant 1h30 de route, moi, dans le Caire, je lis. Je prends un des livres spécialement pour le Caire, c'est-à-dire écrit gros, des nouvelles si possible, que je puisse interrompre facilement. Mais pendant 1h30 que dure mon voyage, moi, je lis tous les jours. Ça m'évite de m'ennuyer.
Oui, mais on ne peut pas donner la définition du Caire pour tout le monde, parce que le gars qui est à la chaîne, qui est debout pendant ses 8 heures, qui s'est fait sa voiture toutes les 2 minutes, il y a une voiture qui passe qu'il est obligé de faire, quand il arrive à 5-6 km d'ici, il dort dans le car. Quand on se voit à Harfleur, là, où il y a un grand neuf routier, qu'on voit les cars passer, les gars, ils dorment dedans. Ils récupèrent, parce que c'est des gars qui vont rentrer à 4h, 4h30 chez eux l'après-midi. Eh bien, la moitié de la journée, elle est foutue. Et bon, on récupère comme ça. Mais, ça aussi, et en plus, t'es un homme, quand on prend les femmes qui, quand elles rentrent, elles ont quand même la lessive, la vaisselle, enfin le ménage et tout à faire, bon bien, il faut faire des choix. Et c'est pas toujours facile de faire les choix.
Je suis pas tout à fait d'accord avec toi. On vient de me dire qu'il y avait 11% de gens qui fréquentaient la bibliothèque. Dans tous les cas, il y a au moins 11% de gens qui jouent aux cartes pendant tout le voyage. Ajoute, c'est 11%, 11%, ça ferait 22% de lecteurs déjà. Quant aux femmes, j'ai dit tout à l'heure, à mon avis, beaucoup de femmes lisent les âneries de EL, femmes d'aujourd'hui, ou autre chose comme ça. C'est les romans à 4 sous, là. Facile, exactement. Et pourquoi ne lirait-elle pas un bon livre à la place, plutôt que cette littérature complètement caduque, hein, sans lendemain, hein. On pourrait très bien lire ça, plutôt que de lire les romans donc à suivre de vagues écrivains que le passé a dit dans ce rapport. On pourrait très bien lire ça à la place, hein.
L'absence du temps de lire, ce n'est pas seulement une absence quantitative de temps. Le temps libre est sous le signe du temps contraint passé à l'usine. Temps contraint passif, temps libre passif pour récupérer. Alors pour lire, il faut l'effort.
Les gens ne lisent pas parce que d'abord, c'est difficile. Regarder la télévision, c'est bien moins difficile. Écouter une cassette, ça se laisse écouter. Lire, ça demande un effort. Ça demande avoir un dictionnaire sous la main. Chercher un mot dans un dictionnaire. Beaucoup de gens ne savent pas chercher un mot dans un dictionnaire. En plus, on prend facilement 3 heures pour regarder un film à la télévision, même si c'est pas une œuvre impérissable. On ne prendra pas 3 heures pour lire. On a l'impression de perdre son temps. Quand on regarde la télévision, on se repose, on se distrait. Quand on lit, pour beaucoup de gens, c'est assimilé presque à un travail. On a beaucoup mélangé lecture et culture. En fin de compte, on peut très bien lire en se cultivant, mais tout en se distrayant et en se reposant.
Alors, c'est une émission que qu'on regarde assez régulièrement avec ma femme, c'est la Apostrophe.
Michel Vernier, agent technique.
Les autres, on en regarde pratiquement peu. De toute façon, comme je ne suis pas très pour la télévision, la télévision, on l'a achetée pour les enfants, parce que c'est autant que ce soit. Et ils allaient toujours voir n'importe quoi chez les voisins. Bon, on a dit, bon, autant on l'a achetée, et comme ça, on pourrait essayer de canaliser un peu ce qu'ils regardent.
Mais en regardant Bernard Pivot, ça vous conduit vous-même à acheter les livres qu'il recommande ou les livres des auteurs qu'il invite?
Oui. Sinon à acheter. Certains à acheter, mais enfin surtout on vient voir ici en disant est-ce que vous avez le bouquin dont on a parlé. En fait, les bouquins de Balzac ou Zola, ça aussi je les relis particulièrement, mais en fait il faut que ce soit attiré par une autre émission. Il ne faut pas quelque chose qui m'attire sur Zola. Il y a eu pratiquement les émissions à la télévision, les 4 séquences sur Zola. Bon, ben, j'ai eu envie de reprendre des bouquins de Zola. Je sais que j'arrive à lire, peut-être une dizaine de livres par an, c'est suffisant.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. sais, d'abord par les lettres, et je sais par l'audience de l'émission que, fatalement, il y a des ouvriers qui regardent, quoi qu'ils reprochent évidemment à l'émission de passer trop tard, puisque bien souvent, ils se doivent se lever à 6h du matin et que mon émission se termine vers 11h moins quart. Donc, même si l'accès, à cause de l'horaire, est difficile, beaucoup d'ouvriers regardent cette émission, de même que beaucoup de paysans pendant la belle saison, et puis bien d'autres catégories sociales la regardent. Et je crois que la réussite d'Apostrophe vient justement de ce mélange des classes sociales devant le récepteur de télévision. Alors, bon, ben, je suis ravi que parfois ils choisissent leur lecture à travers Apostrophe, à travers les écrivains que j'ai le plaisir d'inviter. Reste à savoir ce qu'ils aiment dans l'émission et ce qu'ils reprochent à l'émission. En gros, ce que j'essaye de faire, et pour aller vite, c'est justement de mélanger les genres Apostrophe. Si je ne présentais aux téléspectateurs que de la pure littérature ou que des sciences humaines les plus d'avant-garde, je crois que je rendrais mauvais service à ceux qui aiment ma lecture. Je ne peux pas être le spécialiste d'un genre. Je ne peux pas faire d'Apostrophe l'émission de l'histoire ou l'émission des sciences humaines ou l'émission du roman facile. Apostrophe doit être l'émission de tous les genres, de livres, aussi bien l'album de photos, puisque je vais faire dans quelques semaines une émission sur les albums de photos, et je suis persuadé qu'il y a des ouvriers qui lisent des albums de photos, bien que leur prix soit excessif, et Apostrophe doit être aussi une émission de la philosophie, et aussi une émission des sciences humaines, et aussi une émission des livres politiques, et aussi une émission du roman.
Alors justement, nous avons été frappés au terme de cette enquête par l'immense plaisir que nombre de travailleurs trouvent à lire la littérature classique.
Oui, mais là, il ne faut pas négliger le rôle très important de ces dramatiques dans la diffusion de la littérature classique. Hein. N'oubliez pas ce que Santelli a fait avec Maupassant, ce que Bory a fait avec Balzac, et ils ont fait beaucoup pour ces grands auteurs classiques. Et je crois que rien à la télévision ne peut remplacer une dramatique extraite d'une œuvre classique. Hein. Ça, je suis formel là-dessus. Alors, mon rôle, moi, n'est pas de parler de ces auteurs qui sont maintenant au panthéon de la littérature, car, prévu par le cahier des charges, mon émission est de faire la promotion des livres d'actualité, de faire la promotion des auteurs d'aujourd'hui. Reste qu'il m'est arrivé de parler d'auteurs classiques, et l'année dernière, j'avais consacré une émission entière à Jules Verne. Et il est possible que dans les mois qui viennent, je consacre une émission à Maupassant si le président de la République veut bien venir parler de son auteur préféré. Mais enfin, ça n'est pas mon rôle essentiel. Et d'ailleurs, si je consacrais, disons, une émission par mois à des auteurs classiques, il est probable que je décevrais une grande part du public qui suit très fidèlement Apostrophe.
Puisque vous avez évoqué Maupassant, qu'est-ce que vous pensez de ce rapprochement entre Giscard d'Estaing et les ouvriers du point de vue de la lecture de Maupassant?
Ça prouve qu'ils regardent tous Apostrophe.
Je lis particulièrement des romans et également beaucoup de d'encyclopédies et de livres afin d'essayer de ne pas passer à côté de quelque chose d'important. En particulier quand un débat se pose sur une question comme la peine de mort, le nucléaire, etc. Question qui vient d'actualité, mais qu'il faut peut-être ne pas seulement prendre au moment où elle est d'actualité, mais la prendre continuellement et essayer de mettre à jour ce qui se dit, ce qui se fait, continuellement, afin de toujours être à jour des réflexions des auteurs. Le dernier roman, c'est celui de Serge Montigny, L'âme en feu. Je l'ai pris avant de partir vendredi, et je l'ai lu pendant le week-end prolongé. Et j'ai noté quelques réflexions.
Note avec sérieux. Une usine, une bibliothèque, un écrivain, Serge Montigny, auteur d'un roman policier, tueur de dames, et d'un roman, L'âme en feu, dont il parlait en même temps ce jour-là, à Sandouville, et des ouvriers rassemblés. Le débat s'est installé, un peu comme dans une pièce de théâtre, chacun dans son rôle.
Je prends la parole tout de suite parce que, en fait, je lis assez peu. Dans le choix de mes livres, je fais surtout appel aux bibliothécaires pour leur demander conseil et qui me guident beaucoup dans la lecture.
Je crois effectivement que nous avons un rôle très grand à jouer. Comme je le disais tout à l'heure, parmi les difficultés que nous avons, une peut-être la première, c'est celle d'avoir le temps de dialoguer précisément avec nos lecteurs. J'expliquais que les gens viennent ici au changement d'équipe, c'est-à-dire qu'ils ont à peu près 5 minutes entre leurs quarts pour rendre le livre et choisir un livre. Il est bien évident que dans ce laps de temps, les bibliothécaires sont dans l'impossibilité de les conseiller. Là où elles ont le temps, c'est soit dans la journée, lorsque le gros des gens sont partis, soit dans le bibliobus. Alors évidemment, je crois que nous avons un rôle de conseiller à jouer, c'est-à-dire qu'à partir du moment où nous connaissons les gens, s'ils nous demandent un roman, on va essayer de trouver le roman qui va correspondre à leur goût. Mais on va essayer aussi de ne pas se limiter à ce goût premier et on va essayer de déborder, de leur faire connaître autre chose parce que certains lecteurs s'attachent à un auteur. Et ils vont être complètement perturbés quand ils auront épuisé la production de cet auteur. Donc à charge pour nous d'essayer de leur faire dépasser ça.
Je crois que c'est un outil indispensable dans les ateliers, par le manque de temps.
Est-ce que vous pouvez expliquer exactement comment ça marche ?
Le bibliobus ?
Vous qui êtes OS, oui.
Bien, il passe dans les ateliers et... Bon, moi, je ne suis pas enchaînée, donc c'est beaucoup plus facile de quitter ma place et d'aller au bibliobus, choisir un livre ou plusieurs et discuter avec la bibliothécaire, qui est alors là disponible quand même beaucoup plus qu'entre 1h30 et 2h30, où il y a le va-et-vient des deux... la coupure des équipes. Hein ? Et c'est beau. Moi, je pratique pas tellement le bibliobus, en fait, puisque j'ai beaucoup plus de possibilités de venir à la bibliothèque ici. Mais je sais que dans les ateliers, les gens vont facilement au bibliobus et remarquent quand ils ne passent pas, le remarquent.
Juste un mot pour dire l'avantage, finalement, du bibliobus, parce qu'il y a, bien sûr, là, des prêts de livres dans les ateliers. Les gens voient passer le bibliobus. Mais je crois aussi, ce qui était intéressant quand on a lancé cette affaire-là, c'est que les gens qui ont vu le bibliobus, qui sont allés au bibliobus, viennent ensuite à la bibliothèque, si je ne me trompe. C'était l'occasion pour eux de faire connaître la bibliothèque et de les faire venir à la bibliothèque.
Et on a constaté une fréquentation nouvelle de la bibliothèque par des gens qui n'avaient pas l'habitude de venir. Et ça c'est intéressant.
Ça m'arrive de lire des trucs pour me décontracter, genre Agatha Christie, par exemple.
Alors, je suis militant syndical à l'entretien. Je suis électricien, autrement. Et alors, je viens au CE depuis que je suis à la régie. Je suis venu au CE, je prends des bouquins et des disques. Puis alors, j'ai un peu de tout, quoi. Pas mal de romans. Des trucs que j'ai entendu parler aussi dans des revues de militants. Que je trouve aussi au CE, bon, sur les sciences sociales, sur les bouquins engagés politiquement aussi. Je prends des BD aussi, bande dessinée. puis enfin c'est assez éclectique quand même ce que je prends. Ce qui est intéressant aussi, c'est par exemple, on peut retrouver les bouquins dont on fait de la pub aussi dans les émissions comme il y a à la télé ou à la radio. Puis j'ai pris aussi des... Ce qui m'intéresse aussi, c'est de prendre par exemple les derniers bouquins parus dont on entend parler, quoi. Puisque ça suit assez régulièrement au niveau du CE. Bah, récemment, je crois que le dernier bouquin que j'ai lu, c'est Notre corps nous-mêmes. C'est un bouquin fait par le collectif des femmes de Boston.
Je suis électricien sur Renault. Qu'est-ce que je lis? Les illustrés et tout ça. Les illustrés, c'est tout. Ouais.
Vous empruntez des choses à la bibliothèque?
Ouais, des livres de temps en temps. J'aime bien les images. Les illustrés, tout ça. C'est tout.
Je suis juste un mécanicien chez Renault. Je lis un peu de tout. Principalement des livres sur les insectes, comme c'est ma passion. Je suis pas adhérent ici parce que j'ai déjà une carte à la bibliothèque municipale au Havre. Alors je vois pas trop, c'est très bien. Le dernier livre, c'était l'encyclopédie illustrée. Ce que j'en retire, j'aime la nature de toute façon. Alors je trouve que c'est beau. C'est tout. Quand on voit tout ce qui se passe, les cheminées, tout ça, je préfère avoir un beau papillon plutôt qu'une belle cheminée. Qu'une cheminée, quoi. C'est chacun son point de vue. C'est tout.
Il y a donc 11% d'inscrits à Sandouville à la bibliothèque. Je crois qu'il est un pourcentage tout à fait honorable, bien que trop faible, bien sûr. Enfin, en considérant l'état moyen national, c'est à peu près ce qui se fait ailleurs. En tant que professionnelle de la bibliothèque, je ne vois pas un désintérêt pour la lecture. Je pourrais même dire, au contraire, puisque l'an dernier, nous avons prêté près de 3000 livres de plus que l'année passée, en 77. En 78, il y a stagnation. Mais évidemment, après avoir prêté 3000 livres de plus, c'est difficile. Hein, plus ça va aller, plus ça va être difficile d'en prêter plus. Et nous avons, par ailleurs, nous, on essaye d'expliquer un petit peu ce phénomène de stagnation cette année. Et on s'est rendu compte qu'en ce qui concerne notamment le bibliobus, c'est là que ça stagne le plus. Nous avons des difficultés à entrer, de plus en plus de difficultés à entrer dans les ateliers, du fait d'un encombrement des allées, du fait enfin d'un tas de tracasseries que nous rencontrons quand nous allons dans l'usine avec le bibliobus. Et par ailleurs, nous rencontrons également le phénomène de dispersion des travailleurs, c'est-à-dire que des ateliers quasi entiers disparaissent, je pense notamment à la couture, où les femmes sont de plus en plus dispersées dans d'autres ateliers où nous ne pouvons pas aller avec le bibliobus, ce qui entraîne soit une désaffection du bibliobus, soit au prix de... Enfin, les femmes doivent se dépêcher de manger pour aller chercher un livre. Enfin, ça leur crée de tels problèmes qu'on perd des lecteurs. Ça nous paraît évident. Donc, mais malgré ça, je ne pense pas qu'il y ait un désintérêt pour la lecture.
6% des Français seulement fréquentent une bibliothèque. 11% des ouvriers de Renault fréquentent la bibliothèque du comité d'entreprise à Sandouville, malgré ces difficultés dont on nous a tant parlé.
Il y a aussi de notre part un essai de toujours proposer aux gens, comme je disais tout à l'heure, des livres qui les intéressent. C'est-à-dire qu'on peut les amener aussi à la lecture par le biais de livres, notamment sur le bricolage, ce qui n'est pas du tout à dédaigner, sur la cuisine, sur les travaux manuels. Enfin, je veux dire qu'il ne faut absolument pas se limiter à ce qu'on pourrait appeler trop généralement la littérature.
En effet, il ne faut pas hiérarchiser les genres. Culture, contre-culture, on lit de tout à Renault. et d'un livre à l'autre, la passerelle se fait. On peut lire un policier, puis un roman, un essai, puis un policier. Mais le débat reprend. La scène, de nouveau, s'établit. Le dialogue commence entre l'auteur et les lecteurs.
On se repasse un certain nombre d'informations. Quand il y a des bouquins qui nous ont bien plu, on en fait profiter les copains. Je crois que c'est vrai. On a tendance à se donner des informations littéraires de bouche à oreille, comme c'est énormément. Et que je ne sais pas si c'est une question de temps, mais plus une question de disponibilité d'esprit pour lire. Moi, je ressens ça fortement, le problème de la disponibilité, parce que bon, on a des problèmes familiaux, on a des problèmes professionnels, on a beau être militant, on est quand même pour une bonne part aussi au travail dans le courant de la semaine. Il y a les problèmes syndicaux, il y a un tas de choses qui s'additionnent dans nos têtes, et on a souvent du mal à avoir la place de rentrer la lecture dans nos têtes. On est pratiquement obligé de lire un livre en pointillé. Là, prendre un exemple, j'ai lu là ce week-end le livre de Serge Montigny, Meurtre pour dame. Bon, c'est un livre que j'ai pas réussi à lire d'une traite. J'ai été obligé de m'y reprendre en trois fois parce que j'ai pas réussi à trouver le temps et la disponibilité pour arriver à lire ce livre en un seul bloc. Alors, j'ai l'impression que ça nuit beaucoup à la vision de l'œuvre de l'auteur et que c'est pas facile pour s'y retrouver. Si vous voulez, pour terminer. Le bouquin de Serge, bon ben j'en ai pas retiré grand chose. Hein. Ce livre, je suis un peu passé au-dessus. Soit j'ai pas réussi à rentrer dedans, ou enfin je suis passé à côté de la plaque. Hein.
Je crois qu'il y a aussi, pour moi en tous les cas, le problème de la nature de la lecture. Et moi j'essaye de lire des romans. Je dis pas que j'en lis énormément, mais j'en lis assez régulièrement. Et ça m'est plus facile finalement de lire des romans que des ouvrages techniques. Moi, actuellement, j'ai deux ouvrages en cours. J'ai un De Mouzon, Adieu la Jola. C'est un policier que la bibliothécaire m'a conseillé. Ça se lit assez vite. Et j'en ai un autre qui est que j'ai commencé il y a beaucoup plus longtemps, qui s'appelle Le Capital de Karl Marx. Et celui-là, ça va beaucoup moins vite.
Mais je vois pas pourquoi le roman serait obligatoirement quelque chose qui ne serait qu'un loisir, n'est-ce pas? Je m'excuse, mais quand vous lisez Zola, pour ne parler que de lui, et peut-être Balzac ou Guerre et Paix, tout ça, ça n'est pas que seulement
oui, c'est pas un
loisir.
Genre, absolument.
C'est peut-être que ça passe plus facilement que Le Capital de Karl Marx, mais il y a aussi quand même que vous pouvez. Qu'est-ce qui est mieux pour comprendre une société que de Zola ou Tolstoï? Vraiment, quand vous avez lu vraiment ces deux auteurs, vous pouvez comprendre par l'intérieur une société et dans son ensemble. C'est vrai que vous ne saurez pas comment on boulonne ou vous articulez un boulon, mais malgré tout, vous comprenez mieux les choses et vous formez votre sensibilité.
Un dialogue est difficile à établir. Pour parler en vérité, il faudrait que chacun sorte de son rôle, de lecteur-auditeur bien élevé ou d'auteur en visite, que chacun oublie le salon d'apostrophe. Désacraliser la rencontre, permettre de parler d'homme à homme.
Ça pose, alors là, vous posez un problème assez grave, à mon avis, c'est le problème de la télévision en général. Et de l'identification que les téléspectateurs peuvent se faire avec ce qu'on appelle les vedettes de la télévision, ce qu'on appelle aussi l'atmosphère de la télévision. Et je ne crois pas qu'il soit de bon qu'on s'identifie à une émission au point de la singer, au point de prendre ses tics. Je ne crois pas. Mais je ne suis pas sûr que vous ne mettiez pas un peu de malice quand même dans votre observation et dans votre question. Car je ne crois pas du tout à une identification entre une assemblée spontanée et puis mon petit salon littéraire du vendredi soir. Il se peut que certaines personnes, sans le savoir, parce que finalement leur seul accès au livre, leur seul accès à la conversation littéraire, c'est apostrophe, en soit imprégné au point de reprendre certaines formules de l'émission. Mais je me demande si l'identification n'est pas dans votre œil à vous et dans votre oreille à vous. C'est-à-dire que si vous n'avez pas vu des gens parfaitement naturels, mais vous êtes vous, reporter, tellement imprégné par l'émission que vous avez cru voir de nouveau apostrophe.
À votre avis, est-ce que c'est autobiographique, votre livre L'âme en feu?
Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça repose sur quelques faits, évidemment, qui ont été vécus, mais qui, évidemment, sont recréés complètement. Et de toute façon, moi, je vous signale tout de suite que moi, je n'ai jamais été dans l'armée de terre, mais dans l'armée de l'air.
Non, mais c'est pas une question d'armée.
Ça n'a rien à voir. Moi, non, je veux dire, pour vous dire que finalement, je ne suis pas allé à Sedan, ni rien, je suis allé dans la marine. Et par conséquent, il y a toute une part imaginaire. Mais évidemment, comme tout romancier, j'ai utilisé, par exemple, il y a un passage où j'ai travaillé en usine, personnellement.
Ouais, d'accord. Alors sur ces endroits-là.
Alors
je pense,
là, oui, j'ai vécu en usine.
Là où au moment où au départ du livre, le moment de la révolte du gamin qui vit dans le château, auquel il n'a le droit qu'à la porte de service. J'ai aimé assez ce passage parce que. Déjà, on sent presque un esprit de lutte.
Ce château-là en question, je l'ai un petit peu imaginé, mais j'ai vécu dans des châteaux, mais par la porte de service, parce que j'étais fils de domestique. Donc, si vous voulez, d'où un petit peu ma révolte. C'est vrai. Et puis, par ailleurs, c'est vrai, j'ai travaillé en usine chez De Wattine à Toulouse. Et...
Oui. Alors, il y a un autre passage là où j'ai noté, que j'aime bien, c'est la définition un peu de la culture.
Dites-la-moi, monsieur.
Quand elle est bâtie, une maison n'est pas pour autant habitable. Vous disposez d'un toit, de murs, d'un cadre pour vous installer. C'est le rôle de l'instruction.
Oui, mais je crois que je n'ai pas à changer quoi que ce soit.
Mais il faudrait meubler cette maison, la tapisser, la rendre digne de vous et des amis que vous inviterez. C'est la culture. On peut donc être instruit et ne pas être cultivé.
Je crois qu'il faut savoir...
savoir donner un nom aux choses et de ne pas connaître leur sens. Moi, j'ai aimé, hein, je l'ai aimé. À l'inverse, il ne saurait y avoir de culture sans instruction. Celle-là commence où celle-ci s'achève, et au-delà, c'est la connaissance. Moi,
je ne change pas une ligne.
C'est une opinion que vous partagez, donc.
Oui, j'avais pas perdu mon
week-end. Si vous voulez, ce livre-là, je le réécrirai maintenant. Je l'écrirai peut-être un tout petit peu différent, seulement sur le plan des formes. Mais sur le plan des idées, je crois que je ne changerai rien.
Qu'est-ce que vous y mettriez comme...
Non, je veux dire, sur le plan de la forme, évidemment, depuis le temps que ce livre a été écrit, évidemment, j'ai encore évolué sur le plan technique. Sur le plan romanesque, si vous voulez, sur le plan de la construction, sur les formes romanesques. Alors là, j'y apporterai d'autres choses. Mais sur le plan des idées, je ne changerai rien, je crois pas.
Il faudra nous faire connaître les autres, alors, ou ceux qui sont en gestation.
Monsieur, si vous me donnez du temps, moi je suis comme vous. Vous savez, vous vous plaignez tout à l'heure les uns et les autres de ne pas lire, et je comprends très bien ça. Et je dirais, moi, je réinsiste encore en disant, et non seulement de lire, mais de relire, ce qui est beaucoup plus important. Mais moi qui écris et qui travaille...
Ça fait longtemps que je n'ai pas lu de livre.
Oh oui, le dernier livre, c'est celui de Solzhenitsyn, l'archipel de Goulag. Enfin, je ne sais pas du tout parce qu'il était trop difficile, dur à comprendre. Il faut toujours se reporter au répertoire, tout ça. Alors, il y a beaucoup de... Oui, c'est un livre assez dur. Oh, c'est loin, ça. Alors, j'en ai pas regardé beaucoup de... Pas grande impression, pas grand-chose qui m'a fait. J'ai pas lu en entier, alors je peux pas vous dire. J'ai lu que le début, alors... Je l'ai pas continué, c'est tellement il était dur.
C'est rare que j'y vais, c'est rare. À la bibliothèque, c'est rare que j'y vais. Petit livre Tintin, faut rigoler, quoi. Petit machin comme ça. Vous passez le temps, quoi.
Je lis très souvent, oui.
Qu'est-ce que vous lisez ?
Beaucoup de livres sur, par exemple, Triangle de Bermude, enfin tout ça, des livres d'histoire ancienne, enfin tout ce qui peut être des recherches qui sont organisées, enfin, pour retrouver soit par les marées, par les sites pharaons, tout ça, j'aime bien voir ça.
Ça vous change votre travail ?
Ah bah oui,
c'est
net.
C'est pour ça que vous lisez ?
C'est pour ça, oui. Exactement.
Moi, je suis plutôt basé un peu sur le policier. Parce que c'est un livre qui est assez facile à lire. Hein. Moi, je vois prendre un chapitre, puis je vais prendre deux jours après. Hein. Alors, ça va vite. Par contre, quand j'ai du temps, j'aime bien prendre des livres d'aventure, du scientifique. Faut que réellement j'aille le temps. Enfin, c'est réellement valable de lire, quoi. Oh, retirer, il n'y a pas grand-chose à retirer. Vous savez que quoi, c'est un peu farfelu. Il n'y a pas de... On peut pas méditer là-dessus, hein.
Elle est utile, la bibliothèque ?
Ah oui. Je déplore qu'il n'y ait pas assez, justement, qui puisse se pencher dessus. Hein. J'aurais davantage de temps à lire, je prendrais quelque chose de bouquin plus sérieux. Mais tous les auteurs sont bons, pour moi.
Mais vous n'avez pas le temps de lire des auteurs sérieux ?
Ah non, je n'ai pas le temps, parce que il faut quand même réfléchir. Hein, on lit pas qu'il faut un bouquin comme ça, on avale. Hein, ou alors il faut suivre, hein, ou alors que c'est des petits, pas des petits paragraphes. Hein, bon, ben, on lit sans vitesse, hein.
Je crois qu'il y a deux types de romans policiers. Il y a les romans alimentaires et il y a le roman policier. Ce sont deux choses différentes, hein, parce que les éditeurs, ça fait belle lurette qu'ils ont compris que c'était un genre qui pouvait commercialement être très intéressant et très rentable. Il y a donc une floraison enfin, ce sont des bouquins qui sont vraiment alimentaires. Enfin, je ne sais pas si on peut citer de nom, si ça sera coupé, mais des SAS ou des trucs dans ce genre-là, enfin, c'est... Enfin, c'est vraiment quelque chose d'horrible à lire. Et à côté de ça, il y a un tas de choses qui peuvent être très intéressantes. Tout dépend de ce que l'auteur en fera.
Moi, je suis de cet avis. C'est-à-dire que le roman policier, qui est, comme l'a qualifié le collègue, alimentaire, moi, je le rejette parce que, pour moi, le roman policier, ça ne doit pas être quelque chose simplement de... comme une distraction. Il ne faut pas que ça soit facile à lire. C'est pour cela que j'ai apprécié le roman de Serge Montigny, parce que c'est un roman où, bon, il y a l'énigme policière, mais derrière, il y a une étude approfondie de chaque personnage, et en même temps, une étude du milieu. C'est pour ça que j'ai aimé ce livre. En général, les romans policiers, je les rejette, parce que je ne trouve pas d'intérêt, disons. Ça se lit trop facilement, et je n'aime pas ce genre de lecture.
Bon, moi, je ne connais pas le roman policier qui a été écrit, mais je connais, par exemple, Agatha Christie. Je peux dire que lire un roman policier d'Agatha Christie, c'est un réel plaisir, parce que en plus des personnages, je crois que l'énigme en est le même. Le lecteur, bon, cherche à résoudre aussi par lui-même son énigme, et ça demande un effort intellectuel. C'est un peu comme une partie d'échecs. Hein. Ça amène quelque chose en plus de la lecture et de la description des personnages. Je crois que c'est un genre assez spécial. Mais quand c'est bien fait, c'est très intéressant.
Moi, je vais revenir un petit peu sur le bouquin de Serge Montigny. Là. Parce qu'effectivement, là, le camarade d'avant, il disait qu'il y avait une étude du milieu, une étude des personnages dans le livre de Serge Montigny. Moi, j'ai plutôt eu l'impression qu'il y avait une ébauche d'études. Et c'est ça un petit peu qui m'a arrêté dans ce livre. C'est... Je l'ai trouvé relativement superficiel au niveau du caractère des personnages. J'avoue que ça, j'ai eu un mal fou à rentrer dans la peau des personnages. Je m'y retrouvais absolument pas. Et je crois que c'est le problème. Alors, il y a des bouquins, y compris des romans policiers, dans lesquels on rentre beaucoup plus facilement, où j'ai pas eu de mal à rentrer. Et je crois que c'est ça qui m'a bloqué.
Vous voyez, vous êtes deux. Il y en a un qui l'a beaucoup aimé, l'autre pas. Mais il me semble, ce qui me rassure par rapport à vous-même, c'est que vous avez avoué tout à l'heure que vous y êtes repris à trois fois pour le lire, parce que justement, vous étiez fort occupé par d'autres choses. Il faut bien voir que, évidemment, quand on aborde un genre, et par exemple, puisqu'il s'agit du roman policier, il faut tout de même tenir compte des impératifs, parce que malgré tout, il y en a. Ce sont généralement, à tort ou à raison, des livres qui entrent dans des collections, qui sont bon marché, qui exigent de ne pas un manuscrit qui ne soit pas trop important. Alors par conséquent, je ne pouvais pas, par exemple pour Meurtre pour Dame, fouiller beaucoup trop longuement mes personnages. En ce moment, par exemple, j'ai écrit un livre, un roman policier qui se passe dans un village. Et à un moment donné, je me suis dit, mais bon Dieu, est-ce que je me laisse aller et j'écris l'histoire de ce village complètement avec tous ces personnages dedans, ou bien au contraire, je me limite à la série. Et très raisonnablement, je me suis limité à la série, c'est-à-dire au masque, à la collection, aux normes de la collection de masques, parce que finalement, alors c'était une entreprise qui m'emmenait beaucoup trop loin. Mais malgré tout.
Malgré tout, malgré les contraintes imposées par le monde de l'édition, ce roman policier qui circule. Mais du roman policier normalisé par les contraintes éditoriales à la culture sacralisée, mise à distance du grand public, il n'y a qu'un pas. Les images de la culture se craquellent. Tout se brouille. La culture est diversité. Diversité pour tous. Tous qui peuvent aussi y avoir accès.
Malgré tout, je prétends avoir mis ne pas avoir écrit un roman gratuit, parce que ce n'est pas ma nature. Je ne suis incapable de faire des choses gratuitement. Enfin, je veux dire gratuitement, qui ne servent à rien. Moi, j'ai besoin de. Un roman policier, je ne veux pas y faire passer un message dedans. Ce n'est pas comme dans un feu. Mais. Et je crois quand même que j'ai dépeint un milieu qui est. Peut-être que vous n'aviez pas imaginé, parce que ces dames, n'est-ce pas, qui se réunissent le vendredi soir pour collectionner, ça existe. Ça existe. Alors ça, je ne l'ai pas inventé. Alors par conséquent, déjà, c'est utile. Vous n'avez pas lu le premier qui s'appelle Une fleur pour mourir. Vous auriez vu là un autre milieu. Et j'ai quand même dit sur les opérations coup de poing dans Paris, des choses comme ça, des choses, mine de rien. Même qui était utile. Même sur l'édition, j'ai dit des choses quand même qui sont un petit peu critiques. Mais je tiens compte quand même, si vous voulez, des normes d'une collection. Ça, je ne peux pas faire sortir de là.
On peut peut-être dire quelque chose d'intéressant, là, c'est que l'écrivain a encore une revendication. Ça, c'est le droit de pouvoir s'exprimer en dehors des normes.
Mais ce sont pas des normes, ce sont des normes de contraintes de fabrication. Ça n'est pas des normes de censure. Il n'y a pas de censure, si vous voulez. Personne ne m'a imposé mais simplement, si mon manuscrit ne peut pas faire plus de, disons, 160 pages, je ne peux pas sortir de là. Ça, je suis bien obligé. D'en tenir compte, n'est-ce pas? Donc je ne peux pas me développer. Mais vous savez, finalement, je m'excuse, madame veut intervenir, mais je vais vous passer tout de suite. D'avoir des règles, ça n'est pas non, pour un écrivain, ça n'est pas non plus négatif. Monsieur, ce matin, citait Ronsard. Je ne sais pas si personnellement je lirai Ronsard aujourd'hui. Je ne suis pas très sûr. Mais il est certain que de s'imposer un certain nombre de règles n'est pas mauvais. Ce sont des contraintes qui sont certes formelles, mais qui doivent vous permettre de dire à l'intérieur peut-être plus de choses. Je ne suis pas sûr qu'on ne puisse pas arriver à dire quelque chose.
Je travaille sur Renault, OS2. Délégué syndical de CGT, je peux répondre quelques questions que vous me posez.
Quel genre de livre vous lisez surtout? Et qu'est-ce que vous avez lu récemment?
Bien sûr, c'est les livres qui sont sortis en Afrique. Je peux bien lire et voir aux bibliothèques ici pour prendre le livre chaque fois avec le disque africain, tout ça, qui a été mis en service du personnel.
Moi, je suis serveuse au restaurant. À la cantine. Moi, les derniers livres que j'ai pris, c'est pour faire du bricolage, au point de vue jardinage, au point de vue des livres pour faire du macramé. Et c'est les derniers livres que j'ai pris. Je trouve que le français a une très grande importance, c'est que le français se perd en France. Les gens n'écrivent plus assez, ne lisent plus assez, malheureusement. Et je trouve qu'ici, ça va peut-être inciter des gens à reprendre de la lecture qu'ils ne faisaient pas avant.
Retoucheur. Beaucoup de médecine.
Pourquoi la médecine?
Parce que c'est un sujet qui me plaît.
Oui.
Je lis beaucoup de Slaughter, Michel Foucault aussi. Là, j'en ai tellement lu que je me souviens plus où exactement. À la vie actuelle où on vit, je recherche un peu le sujet de la folie. C'est à la suite d'un livre que j'ai lu, quoi. Schizophrénie, mais j'ai jamais retrouvé l'auteur ni rien. Et je l'avais pas fini ce livre-là. Et c'était un livre de poche. Je l'avais lu en vacances et ça m'avait énormément plu. Alors maintenant, je me lance dans la médecine et tout ce qui s'ensuit, quoi.
Alors vous voulez tout savoir sur la folie ?
Voilà, c'est ça.
Michel Foucault lut intégralement, l'écriture appréciée, et de nouveau le plaisir. Mais les rôles s'oublient, le débat conduit à la lecture, le débat conduit au plaisir de lire partagé.
Un auteur qui m'a porté beaucoup, c'est Hemingway, parce que Hemingway est un monsieur qui a, avant tout le monde, tous les autres auteurs, a compris qu'on en entrait dans le siècle de l'image, et que par conséquent, et encore... De son temps, la télévision n'avait pas fait les ravages qu'elle a fait depuis. Et il avait déjà compris que finalement, la description n'était plus possible comme au temps de Proust, par exemple, n'est-ce pas ? Donc, si vous voulez, je crois que plus on doit en va, et plus on doit aller, l'écrivain doit aller vers une simplification des choses, de manière à, des écritures, de manière à permettre au lecteur de remplir, lui, ensuite, l'entre-deux.
Le raisonnement que vous faites est exact, mais ça tient aussi à la standardisation.
À ce moment-là, si on enlève toute description, la personne qui n'aura pas les moyens, par exemple, ou tout du moins qui ne verra pas l'endroit où vous voulez situer votre décor, c'est comme si on jouait une pièce de théâtre dans une pièce nue. Et à ce moment-là, le roman... N'a pas de situation, il est tout seul.
Mais je suis d'accord avec ça, c'est-à-dire qu'en effet, il faut donner l'essentiel des choses, il faut faire comprendre, il faut donner les indications de lieu, de milieu, de climat, etc. Sur ma manière de boutade, comme écrivain, je dis que finalement, la vérité de l'écrivain, c'est finalement la lecture dans le métro. Qu'une lecture puisse résister à la bousculade du métro, etc., alors je dis, là, vraiment, l'écrivain, c'est champion. S'il a résisté à ça, c'est que, vraiment, il est en accord avec la société.
Je ne suis pas d'accord.
Ah, si.
Ça peut l'air d'être une opinion tout à fait partagée.
Étant un ancien client du métro, Dieu sait si je l'ai pris pendant 20 ans, le métro, il faut revoir remarquer dans les noctambules, disons, dans ceux qui prennent le métro à Billancourt à 11h, 11h30 le soir. Ils sont réglés, vous savez, avec des montres. Hein. Le gars, il se lève à la 10 ou 12e station, il les a pas comptés, il sait qu'il se lève, hein, même le gars qui dort. Alors, moi, sur le métro, je suis...
C'est une image.
Moi, c'est pas pour parler du métro. Hein. Non, c'est par rapport à la description. Moi, je suis d'accord avec vous. Parce que je crois de plus en plus que... pas de manière définitive. Je crois de plus en plus que... Enfin, quand on a encore des livres avec toute une description ou de paysage, on a tendance à passer très vite là-dessus. C'est peut-être des fois regrettable parce que, bon, c'est bien écrit. Hein. Bon, pour suivre davantage vite l'action ou la psychologie des personnages en question qui m'intéressent certainement davantage. Mais quand je dis pas de manière définitive, est-ce qu'il ne faut pas parfois s'arrêter peut-être, c'est pas facile dans certains cas, quoi, des descriptions très détaillées quand on... veut faire ressortir un certain nombre de choses, parce que je crois aussi que les gens ne voient plus d'une certaine manière, peut-être à force de voir beaucoup de choses, finalement moi je constate souvent que dans la vie les gens n'écoutent plus guère, ne voient plus guère un certain nombre de choses, et si on n'attire pas l'attention de manière précise, je pense particulièrement aux OS ici, à la régie, qui fournissent un certain travail parcellaire et qui finalement, par la routine, n'en ont plus toujours tellement conscience du travail. C'est un exemple que je donne. Hein. Et quand j'ai lu, par exemple, L'Établi, ou des bouquins de ce genre-là, où le travail est redécrit, je crois que ça attire davantage l'attention. Je pense aussi, mais alors c'est autre chose, c'est au point de vue du cinéma, le film Humain, Trop Humain, où on remontre, ou même des gens qui travaillent dans ces conditions-là, voient sur l'écran ou lisent dans un livre, ce qu'ils font, ils ne le voient plus de la même manière. Et je crois que parfois c'est intéressant.
Je n'ai pas dit que j'étais contre la description. Je dis simplement qu'on doit donner l'essentiel ou rappeler l'essentiel. Je crois que c'est ça. Et en tout cas, ce qui n'est plus possible maintenant pour un écrivain, et ça, de toute façon, même vous me diriez le contraire, je ne changerai pas d'avis là-dessus, je crois qu'on ne peut plus faire des descriptions comme on les faisait autrefois, et on ne peut plus étouffer les lecteurs sous des descriptions. C'est tout. Ouais. Mais pour autant, je sais qu'il ne faut pas que l'action. Il faut un savant dosage, et c'est là où il faut peut-être trouver... C'est à ça que je réfléchis de plus en plus. En faisant ces policiers, j'ai l'air comme ça de rien, mais en réalité, peu à peu, je mets au point des techniques romanesques qui me seront utiles de nouveau pour pouvoir réaliser des travaux plus importants que je veux toujours réaliser.
Pensez que les écrivains devraient tirer un certain nombre de conclusions de ce que les travailleurs pensent, pour la plupart d'entre eux, que la lecture est un effort difficile, que d'autre part il manque de temps et qu'en conséquence ils sont obligés de lire quelquefois des extraits de livres assez courts et que quelquefois ils sont obligés d'abandonner compte tenu du manque de suite entre ces extraits.
Moi je ne crois pas qu'un écrivain doive tenir compte des goûts des conditions de lecture de ses lecteurs. La création n'a pas à s'inquiéter de la manière dont elle sera reçue. Je crois que l'écrivain doit être tout seul et il écrit, il dit ce qu'il a à dire, et il le dit de la manière dont il croit qu'elle est la meilleure. Imaginez Proust et son genre, ses grands chapitres, assez longues phrases, et se disant non, il faut que je coupe tout ça, il faut que je mette des points un petit peu partout, sinon les bourgeois, les ouvriers ne me liront pas, seuls les intellectuels et les grands de ce monde pourront accéder à ma prose. Donc si je veux être lu par tout le monde, il faut que je change de style. C'est impensable. C'est absolument impensable, je peux le dire à vrai, dire ceci à quelque chose de cruel, puisqu'on ne se soucie pas du lecteur, et finalement du lecteur le plus respectable, celui qui a envie d'apprendre, celui qui a envie de s'émouvoir par la lecture, et celui qui souvent n'a pas le temps de consacrer beaucoup d'heures à cette lecture, qui devrait lui être rendue plus facile. En revanche, moi je dis que les éditeurs devraient souvent faire un effort pour rendre la lecture accessible. Et comment la rendre accessible ? Bien, d'abord, en imprimant pas trop petit les livres. Moi, je suis parfois surpris de voir combien certains livres sont difficiles d'accès parce que c'est une typographie tassée, typographie de pattes de mouche, et combien il est difficile de lire un ouvrage, surtout en plus ça, s'il est énorme, s'il fait 600, 700 pages. Donc là, il y a certainement pour les éditeurs un rôle de rendre clair les livres les plus difficiles, d'aérer les textes, pour que ceux qui n'ont pas l'habitude de fréquenter les livres, ceux qui n'ont pas l'habitude de se colter à la prose la plus difficile, aient un certain agrément dans l'approche du livre.
Des descriptions, là je crois que l'exemple que vous avez pris de Balzac est très bien choisi, parce que moi il y a plusieurs années de ça, quand je lisais les bouquins de Balzac, que je voyais les longues descriptions de trois pages sur les machins et le personnage, et ben carrément je les lisais pas, je les sautais,
J'ai regardé jusqu'où allait la discrétion pour reprendre la suite. Alors déjà à cette époque-là, où il n'y avait pas le développement de l'audiovisuel et de tout ce qu'on voit maintenant, j'avais déjà ce réflexe-là. Alors effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous, les longues descriptions telles que ça se passait autrefois avec les écrivains d'il y a 100 ans ou 200 ans, c'est imbuvable. Alors je suis tout à fait d'accord que les descriptions, encore ça vaut, encore est-il comment on décrit et qu'est-ce qu'on décrit. With my hammer for fashion, farming always wanna fight, swallow up some TV dinner, swing my hammer strong and mighty.
Antoine Spire, Georges Bonopéra, Mehdi Eladj, lecture volée. Une enquête en deux volets. Ce soir, à Sandouville, chez Renaud. Demain, la suite à Courbevoie, avec les lecteurs de la Thomson. Nuit magnétique, Gérald Vanhove, Mehdi Eladj, Alain Weinstein. Bonsoir.
Cette émission a été diffusée la première fois le 28 mai 1979 sur France Culture. À suivre. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.